Bonjour et bienvenue sur Jurygeek et compagnie, le podcast des enjeux du numérique pour le grand public et les entreprises françaises. Moi c'est Nathalie et dans cet épisode je ferai le lien entre lobbying, influence et intelligence économique, les trois leviers pour avoir un impact sur l'action publique. Ayant exercé comme lobbyiste à Bruxelles dans la lutte contre le cancer pour l'Union internationale contre le cancer et European Cancer Leagues, j'ai constaté à mon retour en France et encore aujourd'hui que le lobbying reste une activité polémique. Le terme est associé à des pratiques viciées, proches d'activités délictuelles telles que la corruption, voire d'atteinte à la souveraineté. Tel que le cas Fiona Scott Morton l'a démontré, c'est cette ancienne lobbyiste américaine qui avait été pressentie pour occuper un poste stratégique à la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne. Cette acception place l'observateur dans une position passive, qui subit les conséquences néfastes d'acteurs qui ont les moyens financiers et humains pour produire un impact sur la norme et l'action publique, et court-circuite l'action démocratique. Mais qu'est-ce que le lobbying ? Pourquoi votre organisation devrait-elle en faire pour atteindre ses objectifs stratégiques ? Quelles sont les différentes actions de lobbying ? On découvre ça tout de suite. Lobbying, plaidoyer et influence. Le lobbying est bien une activité légale, soyez rassurés, qui est régie par un cadre déontologique et des autorités de contrôle au niveau étatique. Mais en réalité, de quoi parle-t-on ? Le plaidoyer et le lobbying ont ceci de commun qu'ils sont des traits d'union entre le débat public et la décision ou l'action publique. Le plaidoyer, appelé « advocacy », cible tous les publics intéressés pour informer le public et les décideurs. Le lobbying cible les responsables publics pour inspirer les décideurs. Les deux activités sont étroitement liées et contribuent à l'objectif stratégique visé par l'entité, qu'elle soit privée, publique ou une ONG. Le but est de faire adopter une décision publique déterminée, une norme ou une action. Par exemple, je vais à la fois prendre la parole dans les médias ou dans des conférences internationales, auprès d'agences nationales, je fais du plaidoyer, et communiquer de façon ciblée auprès de ministères, de la Commission européenne, là c'est une action de lobbying, pour obtenir des mises en garde sur des paquets de cigarettes, des messages et des photos couleurs que vous connaissez sûrement, à des fins de lutte contre le tabagisme. Les décideurs ont en effet besoin d'informations techniques, de chiffres et de comprendre les problèmes qui se posent quand une loi est appliquée. C'est d'autant plus important au niveau de l'Union européenne car un règlement s'appliquera à 448 millions d'habitants. Le plaidoyer est très utile pour faire évoluer la prise de conscience du public sur des sujets aussi divers que le réchauffement climatique, la défense des libertés individuelles, l'interdiction du travail des enfants. Tout citoyen pourrait, voire devrait, être l'avocat de telle cause et porter secours au sens étymologique du terme « advocatus », celui qui est appelé au secours. Ici, on vise le grand public. Les types de messages qu'il peut être approprié de communiquer à ces publics sont par exemple des histoires et des messages simples, et faisant appel à des émotions, ce qui facilite la compréhension et le dialogue sur ces questions. Des exemples de bonnes façons de transmettre des messages à différents publics, c'est par exemple en ayant recours à des personnalités connues ou à des témoignages personnels de ceux qui ont souffert de l'utilisation abusive d'armes légères par exemple. Le lobbying est un levier plus proche des institutions nationales, régionales, c'est-à-dire européennes, ou internationales qui ont une activité normative. Cette activité requiert donc des compétences particulières, à minima la connaissance des processus normatifs de ces institutions et des aptitudes à créer et animer un réseau, notamment auprès du public et donc des médias qui seront vos relais. On s'adresse ici à des responsables de l'élaboration de politiques générales et faiseurs d'opinion. Les types de messages qu'on pourrait communiquer à ces publics reposent sur des arguments détaillés, sont basés sur des données concrètes. On peut aussi montrer les liens entre la question et le pouvoir ou la position exercée par ces personnes. De bonnes façons de transmettre ces messages à ces publics, ce serait à travers des documents d'orientation détaillés ou de simples lettres, ou des réunions en vue d'établir l'importance de la question pour ces décideurs. Ici, le but est d'avoir une communication efficace. Et c'est là que l'influence fera la différence. Exercée par un individu ou un groupe sur ses membres, l'influence permet d'imposer des normes comportementales ou d'attitudes. Objectif séculaire s'il en est, l'influence et ses techniques ont vu le jour en matière politique et militaire pour se diffuser ensuite dans les relations économiques et commerciales jusqu'aux sphères personnelles sur les réseaux sociaux. L'influence est en quelque sorte le summum du lobbying. Certaines pratiques peuvent se concentrer sur des cibles individuelles, avec par exemple la méthode MICE, et leurs utilisations permettent de faire du renseignement humain. Par exemple, faire entrer une information dans un cycle de résonance médiatique. Ces approches individuelles se pratiquent en particulier dans la gestion des affaires publiques et dans les approches de négociation. Quel est le lien entre l'objectif stratégique, l'intelligence économique et le lobbying ? L'intelligence économique, qu'elle soit défensive ou offensive, permet d'affûter sa connaissance de l'environnement concurrentiel de l'entreprise pour en prévenir les risques et les menaces. C'est un outil de compréhension de la réorganisation des économies, préalable indispensable à la définition d'une stratégie d'entreprise. Elle intervient donc en amont de celle-ci, alors que la mission de lobbying agit en amont et en aval. La dissociation des rôles d'intelligence économique et de représentant d'intérêt sera ainsi particulièrement habile pour une entreprise qui se trouve dans un environnement compétitif et très régulé ou en passe de l'être, lorsque trois facteurs sont réunis. D'abord, la nécessité pour l'entreprise de communiquer efficacement auprès des institutions et décideurs sur le plan local, national, européen, voire international, cet impératif peut faire suite à un événement médiatique impactant négativement la société. Ensuite, l'incapacité de ces mêmes institutions et décideurs à avoir une vision globale de l'enjeu pris dans ses différentes dimensions politiques, économiques, sociales, juridiques, etc. Et enfin, le sujet pose une question qui est à la conjonction des marchés internationaux et du fonctionnement de nos sociétés. Alors, qui mieux qu'un lobbyiste pour exécuter la stratégie d'influence pensée par les dirigeants et prendre l'initiative de rencontrer des élus chargés d'élaborer et voter des lois, des règlements, des directives, ou encore se charger de les faire exécuter sur le plan national ou local? Qui de mieux placé alors pour collecter de l'information dans ces cercles grâce à une présence dans les couloirs de Bruxelles, Genève, Paris, etc. et ainsi alimenter en retour la stratégie d'influence. L'objectif premier sera de démontrer l'adéquation entre l'objectif de l'entreprise et ceux poursuivis par l'élu ou le décideur de l'action publique et de mettre en avant comment la solution préconisée permettra un meilleur fonctionnement des marchés et de la société. Dans le domaine numérique, les exemples sont nombreux, mais celui des intelligences artificielles génératives telles que ChatGPT, Bard, est particulièrement intéressant. D'abord parce qu'à ce stade, ces Large Language Models, les LLM, sont exploités non seulement par les GAFAM, mais aussi par d'autres acteurs au niveau national. Ensuite, ces LLM ne sont pas encore régulés, mais sont en passe de l'être, avec le règlement sur l'intelligence artificielle actuellement débattu dans l'Union européenne. D'ailleurs, ce règlement sera sûrement une source d'inspiration pour de nombreux États, comme ce fut le cas pour le RGPD. Ensuite, parce que les impacts de ces LLM sont sociétaux et touchent tous les pans de l'activité humaine dès lors que le numérique est présent. Et ils sont ambivalents. Il y a autant d'opportunités que de limitations, comme pour n'importe quel autre outil à la disposition de l'humain. Et en plus, il n'y a pas de vision claire sur les LLM, même à court terme, pour les institutions et les décideurs. Ainsi, après avoir alerté l'opinion sur les dangers qu'il représente pour la survie de l'humanité avec une action de plaidoyer, les compétiteurs des majors des LLM, OpenAI, Google, Meta, Microsoft, Anthropic, se sont alliés pour s'auto-réguler et ils ont créé un forum des modèles d'avant-garde. Ces entreprises, en réalité, s'entendent en affichant un credo indiscutable qui est de garantir un développement sûr et responsable des modèles d'intelligence artificielle d'avant-garde, avec en réalité pour objectif stratégique de faire front commun face aux institutions et décideurs, un peu à la manière d'une attaque en meute qui viserait à faire basculer la gouvernance d'une entreprise si on veut faire un parallèle avec un autre mécanisme. Le fait que les LLM soient en passe d'être régulés renforce la concurrence entre leurs fabricants qui cherchent, par le lobbying des institutions, à influencer la rédaction des amendements du règlement IA dans un sens reflétant leurs intérêts, l'autorégulation. Quelles sont les différentes actions et étapes du lobbying ? Pour être un bon lobbyiste, il faut maîtriser les stratégies, les méthodes et les outils du lobbying, le plaidoyer et la communication d'influence. On commence par diagnostiquer la situation stratégique pour comprendre les enjeux de l'entreprise. En lien avec la stratégie d'entreprise, on détermine les objectifs à faire valoir auprès des pouvoirs publics, porter un sujet à l'agenda politique et bâtir une stratégie d'influence dans ce sens. Pour cela, il faut identifier les parties prenantes et les cartographier en fonction de leur aptitude à obtenir le changement souhaité et en fonction de leur position face à notre problématique. On identifie aussi la chaîne de décision publique et on cible les interlocuteurs pertinents de l'échelon local, national, européen, voire au-delà si c'est nécessaire. Le lobbyiste doit surtout légitimer son action, se créer des alliés auprès des médias, de l'opinion publique et des parties prenantes. Concrètement, cela passe par des prises de contact, la rédaction de notes de position efficaces, des amendements clairs, des exposés des motifs, des notes techniques et des livres blancs. Dans l'Union européenne et dans les organisations internationales, il existe des mécanismes structurés pour échanger des informations, des groupes de travail, des consultations publiques, des groupes d'experts, particulièrement intéressants d'ailleurs, car le dialogue avec la Commission européenne est direct. Par exemple, j'ai été sollicitée en tant qu'experte sur la responsabilité des systèmes d'intelligence artificielle et aussi sur l'éthique des véhicules autonomes. Tous ces éléments seront ordonnés pour favoriser le partage du sens de l'action en interne et en externe et mobiliser vos soutiens et l'opinion. Mais c'est pas tout. Pour être efficace, la stratégie de lobbying doit reposer sur des indicateurs pour être mesurable. Par exemple, si un de mes buts est d'augmenter la prise de conscience d'une question particulière parmi les membres du Parlement, les députés, mon indicateur pourrait être le nombre de députés qui ont entendu parler de cette question. Et un moyen de vérification serait un questionnaire ou un sondage d'opinion. Autre exemple, si un de mes buts est de développer la volonté politique des députés pour agir sur une question particulière, un indicateur pertinent serait le nombre de députés qui s'expriment sur cette question, soutiennent une déclaration ou un projet de loi. Et ma source d'information, je la trouverai dans les listes de signatures de procès-verbaux de débat. Une bonne stratégie de lobbying va comprendre une toile de fond, une question, quel est le problème que vous tentez de résoudre, ensuite une analyse du pouvoir, c'est-à-dire qui sont les protagonistes clés et quelle est leur position, quels sont vos buts et objectifs précis en matière de plaidoyer, c'est-à-dire que tentez-vous de changer, l'énoncé d'une stratégie d'influence, c'est-à-dire comment persuaderez-vous vos cibles d'agir, et un plan d'activité, c'est-à-dire tous les détails de vos actions. Enfin, les actions de lobbying sont encadrées en France et en Allemagne, par exemple, par des autorités de contrôle, alors qu'au niveau européen, le dispositif actuel est purement volontaire. C'est le registre de la transparence. voilà, cet épisode de Juridique et compagnie est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager autour de toi. N'hésite pas aussi à me dire quel sujet tu souhaiterais que j'aborde dans le prochain épisode. Et pour ça, je te donne rendez-vous sur mon site Influence Cyber. Rendez-vous donc pour un prochain épisode. D'ici là, longue vie et prospérité à toi.